Un petit livre cette semaine qui est une magnifique synthèse autour de la miséricorde dans la Bible. Il s'appelle « Ce que dit la Bible sur la miséricorde ». Son auteur est Pierre Gibert, un bibliste reconnu, jésuite, et nous lui avons demandé comment les prophètes de l'Ancien Testament parlent-ils de la miséricorde.
Alors, les prophètes sont affrontés à des gens qui ont besoin de miséricorde. C'est là qu'il faut voir comment, à travers leur message, alors qu'au départ, ils sont là pour rappeler non seulement la vérité de Dieu, mais aussi la vérité des fautes, des rois, des prêtres, des riches, et par rapport aux pauvres. Donc, dans un premier temps, si vous voulez, leur message ne sera pas un message de miséricorde, mais on s'apercevra qu'ils le deviennent très vite.
Quels sont les mots qui, dans l'Ancien Testament, traduisent cette miséricorde, puisque le mot n'existe pas dans l'Ancien Testament, mais il y a des aspects de Dieu que les prophètes essayent de nous transmettre. Quels sont-ils?
D'abord, le fait que Dieu écoute en quelque sorte la supplication des prophètes, comme il écoute Amos dans au moment des premiers oracles, comme il écoute Osée. Donc, on voit la miséricorde divine en quelque sorte en acte dans le langage des prophètes qui font parler Dieu dans ce sens. Et c'est vrai pour Amos, c'est vrai pour Osée, ça deviendra vrai également pour Isaïe, mais là où ça se manifestera le plus clairement, c'est dans ce qu'on appelle le second Isaïe, où là il emploiera une expression très forte, très significative, quand il parlera des entrailles de mer, que Dieu a des entrailles de mer, et là c'est pour considérer cette expression comme une des plus fortes expressions ou désignations de la miséricorde divine.
On est au cœur de la miséricorde avec les entrailles de mer.
Oui, on peut dire ça.
Dieu est comparé à une mère qui nous porte.
Oui, d'une certaine façon. Et surtout, c'est très important parce que dans cette histoire de Dieu, on le sait très bien chez les païens, mais on le trouve aussi en Israël, spontanément, Dieu est d'abord un Dieu de puissance, donc un Dieu qui peut exercer son pouvoir. Alors, dans le cas d'une justice sur les pécheurs, mais d'abord pour châtier. Or là, les prophètes vont nous révéler progressivement, et ils vont le découvrir eux-mêmes d'ailleurs assez vite, que Dieu n'est pas simplement un Dieu de puissance qui châtie, c'est un Dieu qui fait miséricorde.
Est-ce qu'on peut dire que la passion du Christ révèle totalement la miséricorde de Dieu?
Totalement, je dirais pour deux raisons. D'abord parce que le Nouveau Testament, avec l'annonciation à Zacharie et l'annonciation à Marie, s'ouvre sur l'évocation du Dieu qui a toujours fait miséricorde. Et avec le Christ, dans sa passion, et surtout dans sa dernière parole sur la croix, c'est la parole définitive de la miséricorde. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Autrement dit, il va demander la miséricorde, même pour ceux qui ne la méritent pas, mais qui sont en réalité dans une ignorance.
Est-ce qu'on peut dire, Pierre Gibert, que dans l'Ancien Testament, le centre de la miséricorde de Dieu, ce sont les entrailles d'une mère, et dans le Nouveau Testament, c'est cette parole du Christ, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Est-ce que ce sont les deux aspects les plus importants de la miséricorde de Dieu?
Je pense qu'on peut le dire, en tout cas, ça résume bien, ça condense bien dans deux formules clés ce qu'est la miséricorde.
Concrètement, comment faire miséricorde?
Mais je dirais ça dépend des situations, des moments. C'est là où on trouve la miséricorde aussi bien du côté du très difficile pardon que du côté de la compassion, du côté de la compréhension. La miséricorde couvre tous ces aspects de la vie humaine qui rend cette vie précisément humaine, c'est-à-dire en fin de compte divine, au nom de la miséricorde divine.